Alors, comme on dit souvent, le ministère de la prédication, c'est le seul ministère dans l'Église où on n'accorde pas de temps supplémentaire. Alors, je regardais mon temps d'antenne, qui est déjà en partie écoulé. Et quoi que ce qu'on a entendu jusqu'à présent est excellent dans l'ensemble. Et notre frère hier nous a parlé de la prophétie, il a jeté une base importante sur la prophétie en parlant d'Israël. Israël qui est un élément de haute importance pour comprendre la prophétie. Cet après-midi, notre frère nous a parlé également du Seigneur Jésus-Christ. Et pour un Israélite qui vivait contemporain du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'idée du rétablissement d'Israël était directement associée avec la présence du Messie. Tournons maintenant dans les Actes des Apôtres au chapitre 1 et au verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 1. Et au verset 6, il nous dit « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Et vous connaissez le reste du passage. Les apôtres associaient la venue du Saint-Esprit avec le rétablissement d'Israël. Jean-Baptiste, dans sa prédication, annonçait la venue du Messie. Il disait lui-même qu'il n'était pas digne de délier la courroie de ses souliers, qu'il venait quelqu'un après lui, plus grand que lui. Il disait ces paroles, il a son van à la main et il va nettoyer son âge. Il nous rapportait donc à une image qui met en présence le Messie avec le jugement qui accompagne le Messie. Tournez maintenant dans Matthieu, chapitre 23. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 23. Et à partir du verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ce verset introduit le chapitre 24 de Matthieu. En ce qui concerne, ce qui a trait aux signes des temps, ce sont des signes précurseurs de la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. Et on sait que présentement dans nos assemblées et dans plusieurs églises, en Amérique du Nord, il y a confusion par rapport à l'enlèvement de l'Église et à la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. Et plusieurs chrétiens utilisent Matthieu 24 pour l'appliquer à l'enlèvement de l'Église. Alors que ça concerne Israël, ça concerne la présence du Messie et le rétablissement de la nation d'Israël sur la terre. Lorsque Matthieu écrit son évangile, il s'adresse à un auditoire juif. Et pour un juif chrétien, eh bien, il trotte dans sa tête une question fondamentale, de haute importance. Si Jésus est réellement le Christ, qu'en est-il d'Israël? Qu'en est-il des promesses de Dieu en relation avec la nation d'Israël? Et Matthieu 24 vient répondre à cette question. Dans Luc et dans Marc, il nous est rapporté une question qui est particulièrement relative à la destruction du temple. Et là, dans cette prophétie du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on est mis en présence de deux événements. Un événement prochain, la destruction du temple qui a pris place en 70 après Jésus-Christ, et un événement lointain, la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ sur sur la terre. Ces deux événements s'inscrivent dans cette période qui prend place entre la résurrection du Seigneur et sa deuxième venue sur la terre. Cependant, en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, il n'y a aucun signe précurseur qui nous est donné. Il y a cependant des conditions concernant l'Église professante dans les derniers temps. Souvent, j'entends dire, par rapport à Matthieu 24, « Eh bien, de même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. » Et c'est vrai, mais dans le contexte présent, on est mis en relation avec la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. On met souvent en oubli l'abomination de la désolation qui va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu lui-même, qui prend place au milieu de la tribulation. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ne suis pas intéressé à être présent pendant cette période. Alors, ces conditions, et c'est ce de quoi je veux vous parler cet après-midi, de ces conditions qui concernent l'Église professante dans les derniers temps, eh bien, ces conditions sont renfermées dans un système de rejet. Le rejet de Dieu, le rejet de Jésus-Christ, le rejet de la parole de Dieu. Les moqueries en ce qui concerne sa venue pour prendre l'Église dans les airs. Les moqueries en ce qui concerne sa deuxième venue sur la terre. Le rejet de la résurrection. Le rejet de l'autorité de Dieu, de l'autorité de la parole de Dieu et de l'autorité établie par Dieu, soit dans l'Église et dans la société. Donc maintenant, je vous pose cette question. Qu'est-ce qui concerne ce rejet? Ce rejet nous est décrit dans le Nouveau Testament et nous est qualifié d'apostat.
Pour nous, très rapidement, il n'y a personne qui s'attendait.
1 Timothée, chapitre 4, à partir de 1, Saint-Esprit. L'Esprit dit qu'expressément, dans les derniers temps, quelques-uns s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et le point que l'apôtre souligne, c'est l'apostasie. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à quelqu'un d'autre. Ils vont abandonner Christ pour s'attacher à quelqu'un d'autre. Ils vont abandonner les Écritures pour s'attacher à d'autres enseignements qui ne viennent pas des saintes Écritures, qui égarent les croyants et les amènent et les détruisent sur le plan moral, intellectuel et spirituel. Alors, l'apostasie représente tout ce qui s'oppose à la foi qui nous est rapportée dans ce livre, les Saintes Écritures. L'apostasie est invariablement le résultat de l'infidélité envers notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est caractérisée par la rébellion, l'incrédulité, la débauche, la volonté propre, la présomption. Et l'apostasie, nous enseigne les Écritures, est dévastatrice. Non seulement ceux qui sont apostats s'attirent le jugement de Dieu sur eux-mêmes, mais ceux qui suivent les apostats s'attirent la discipline de Dieu sur eux-mêmes. Le Nouveau Testament nous parle et nous révèle donc cette question d'apostasie. Et j'aimerais qu'on tourne dans la lettre de Jude. Jude qui traite cette question d'apostasie. Jude qui nous apporte également, ce qu'on va voir ce soir, le remède à l'apostasie. Alors, on tourne dans la lettre de Jude au verset 17. Alors, s'il y a ces signes des temps, il y a des conditions qui concernent l'Église. Et l'Église, à ce que je sache, n'est pas encore arrivée à la perfection. Et souvent, l'Église est en difficulté parce que l'Église et les croyants que nous sommes ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Gardez le droit dans l'épître de Jude, on va revenir là-dessus. Le Nouveau Testament nous révèle la présence de faux docteurs et de faux enseignants, de leur augmentation dans les derniers temps, ainsi que de l'ordre de séparation qui est donné aux croyants. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, nous met en garde contre les faux prophètes. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. L'apôtre lui-même, l'apôtre Paul, disait dans les Actes des Apôtres au chapitre 20, au verset 29, qu'il y aura, donc il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des enseignements pernicieux et qui attireront plusieurs. Et il dit, veillez, veillez. Ces faux docteurs propagent un enseignement pernicieux, un enseignement qui amène la ruine morale et intellectuelle ainsi que spirituel de ceux qui y adhèrent. Et comme résultat, eh bien, la voix de la vérité est calomniée à cause d'eux. Tourne un instant dans le deuxième épître de Pierre, où Pierre traite cette question. Au chapitre 2, deuxième épître de Pierre, à partir du verset 1, il est dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Enseignement pernicieux qui produit la ruine de ceux qui l'écoutent. Dérèglement et la voix de la vérité qui est calomniée. » Je m'adressais dans une école, une polyvalente de Foutimi, il y a quelque temps de ça, et on m'avait invité pour parler des sectes et religions. Et c'était tout juste après l'événement de David Koresh. Donc, c'était une classe d'étudiants, des non-croyants à Foutimi, même à Jonquière. On est parfois invité par le cégep ou par les écoles secondaires à venir leur adresser la parole. Et j'aurais lu ce passage de 2 Pierre, chapitre 2, pour leur parler des sectes. Pour leur dire que oui, la Bible parle des sectes. Oui, la Bible parle des faux prophètes. Oui, la Bible parle des faux docteurs. De ce qu'ils produisent par leur enseignement et de ce qu'ils amènent le monde à faire en rapport avec la voix de Dieu. Et j'ai posé la question aux étudiants. Après l'événement de Koresh, qu'est-ce que vous avez pensé de ceux qui lisent la Bible? Et plusieurs m'ont répondu, c'est une gang de capotés, comme on dit en bon québécois. C'est une gang de sautés. Et j'aurais lu ce verset-là. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ils ont calomnié l'Église véritable de Jésus-Christ. Ils vont calomnier le nom du Seigneur Jésus-Christ et le nom de Dieu lui-même. Donc, qu'est-ce donc que ces impies? Premièrement, et c'est important de savoir ces choses-là, c'est que les impies méprisent trois choses. Vous n'avez pas, en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, de connaître toutes les sectes et religions dans le monde pour savoir qu'est-ce qu'un impie. Un impie, c'est quelqu'un qui d'abord méprise l'autorité de Dieu. méprise l'autorité de la parole de Dieu et méprise l'autorité établie par Dieu. Ces trois éléments-là caractérisent un impie. Refus de se soumettre à Dieu, de se soumettre à sa parole et de se soumettre à l'autorité établie par Dieu. Il change la grâce de Dieu en dérèglement. Retournez dans l'épître de Jude. L'épître de Jude au verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a souligné dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il s'est adressé à Milet, aux anciens d'Éphèse, qu'il allait y avoir des loups cruels qui allaient venir de l'extérieur de l'Assemblée. Mais également mentionné qu'il allait y avoir certains de ces faux docteurs qui allaient s'élever du milieu de l'Assemblée. Et Jude souligne ici qu'il s'est glissé des hommes qui enseignent des choses pernicieuses. Subtilement, l'apôtre Pierre utilise le terme sournoisement. Le faux docteur, le faux prophète, l'impie n'est pas quelqu'un qu'on peut identifier du premier coup. C'est quelqu'un qui possède connaissance. C'est quelqu'un qui nous apparaît avec une apparence de piété, donc qui paraît pieux. C'est quelqu'un qui possède le langage que nous utilisons, mais qui tord le sens des Écritures, s'approprie la vérité des Écritures, en tord le sens et attire les croyants à sa suite. Et c'est contre de tels hommes que les Saintes Écritures nous avisent. On est avisé contre l'erreur, on est encouragé à la vigilance et à l'obéissance de la parole de Dieu. Ce verset 4 représente dans Jude l'apostasie dans la pire de ses formes, parce qu'elle met en contradiction la parole de Dieu avec la conduite des personnes. Souvent, on pense qu'il n'y a pas d'apostasie qui nous entoure. Ou même, on n'est même pas enclin à corriger l'erreur lorsqu'elle se présente dans l'Assemblée, parce que nous sommes entrés dans une société de tolérance. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'est-ce que la vérité, mais qu'est-ce que la vérité à mes propres yeux. Et les croyants se donnent maintenant à toutes sortes de doctrines. À toutes sortes d'erreurs, à toutes sortes d'expériences aberrantes. Ce n'est plus les Saintes Écritures qui définissent la doctrine, mais c'est maintenant l'expérience personnelle. L'expérience remplace maintenant, la doctrine remplace maintenant les Saintes Écritures. Et qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on perd de vue l'autorité de la parole de Dieu sur nos vies. Dernièrement, on a parlé à l'église de Chicoutimi. On a donné une série de trois messages sur les différences irréconciliables entre l'église catholique et les croyants évangéliques. Et on est arrivé à cette obligation de parler ainsi parce que les chrétiennes, non seulement à Chicoutimi, mais même dans notre belle province de Québec, ne font maintenant plus de distinction entre un catholique et un évangélique. Les oreilles me frémissent lorsque quelqu'un m'aborde en me disant « Ah, j'ai rencontré un tel, c'est un catholique. » Et puis, oui, il me dit que lui aussi, il croit en Jésus. Puis parce que la personne a dit qu'elle croyait en Jésus, eh bien, on a trouvé suffisant cette réponse. On n'a pas osé explorer, même questionner la foi de la personne en vue de l'établir sur un fondement sûr, solide, basé sur les saintes Écritures. Il y a également un problème par rapport à ceux qui sont nos enfants, qui n'ont pas connu le système de l'Église catholique romaine. Ils ne connaissent pas la doctrine. Ils ne connaissent pas l'enseignement. Ils ne connaissent pas les différences fondamentales qui existent. Et un frère m'avait fait parvenir ce document qui est sorti aux États-Unis, un document qui a été rendu public. Peut-être certains d'entre vous le connaissez déjà, qui s'intitule « Évangélique et catholique ensemble ». Donc, c'est un document qui est sorti en 1994. Et c'est un document de grande importance. Et il a été rendu public aux États-Unis. Et ce document fut écrit par 20 leaders évangéliques et 20 leaders catholiques. Ils ont écrit sur ce qu'ils affirment ensemble. Et désire par ce document fournir une déclaration qui avancera la communion chrétienne, la coopération et une confiance mutuelle entre évangéliques et catholiques romains. Il désire fournir une vue mondiale pour les évangéliques et les catholiques afin de les unir pour la défense de la vérité. Ces hommes voient le bénéfice pour les évangéliques et les catholiques de lutter ensemble sur des points critiques de l'éthique morale d'aujourd'hui. Ils veulent également établir une base pour la vérité et le respect mutuel entre évangéliques et catholiques ici en Amérique du Nord et en Amérique latine, à cause des rivalités conflictuelles qui existent là-bas. Le document dit que c'est péché pour un chrétien né de nouveau d'apporter l'évangile à un catholique. En ce qui nous concerne à l'Assemblée Fukushimi, la grande majorité n'aura jamais entendu l'Évangile. Et je pense, en ce qui vous concerne, la grande majorité de cette salle n'aura jamais entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Il est dit que ce document ne représente pas, donc, officiellement toutes les communautés chrétiennes. Et c'est vrai. La seule autorité que le document possède repose sur la crédibilité personnelle de ceux qui l'ont signé. Et ce n'est pas n'importe qui l'a signé. Cependant, les signataires espèrent que ce document influencera et changera le modèle établi du comportement entre évangéliques et catholiques en Amérique du Nord et Outre-mer. Le document a été rapporté circulait à l'intérieur du Vatican, où il a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Christianity Today et The Christian Coalition le considèrent comme un document historique. Et le Wall Street Journal l'appelle la vague du futur. Et un des premiers éléments qui est rapporté dans ce document-là, eh bien, abaisse la justification par la foi. Une fausse doctrine. Vous savez, en tant que catholique, on ne sait jamais si on peut être sauvé. On ne peut jamais savoir de notre vivant. C'est seulement après la mort, lorsque nos œuvres vont être mises en balance et qu'on va passer devant le jugement de Dieu, devant son trône, si on va pouvoir connaître si on est sauvé ou non. C'est un système apostat dans lequel il n'y a pas de salut. Et frères et sœurs, si vous êtes tombés dans un sommeil spirituel en rapport avec ce qui se passe autour de vous, sachez que l'Église catholique romaine a des buts et des objectifs qui sont bien évidents. Il y a une couple d'années passées, je prenais au réseau Andelin une émission en direct du Vatican, où après une réunion, un des évêques qui siégeait là-bas disait aux journalistes que le pape est non seulement un chef spirituel, mais il est aussi un roi. Et qu'en tant que roi, il a droit à son royaume. Et on avait établi comme but objectif, il y a 2 ans, de reconquérir l'Europe au nom de la papauté. Donc, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont en branle. Et il y a également des choses qui mettent en périple la foi des chrétiens. Cette foi qui repose sur les saintes Écritures. Ici au Québec, vous savez, ce qui se passe aux États-Unis, des fois, ça semble loin de chez nous. Il y a encore bien plus lorsqu'on habite au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que il y a beaucoup de choses qui sont filtrées au travers du parc des Laurentides. Et souvent, lorsqu'il y a une tempête de neige, eh bien, ça ne passe pas. Donc, ça prend du temps avant de parvenir à nous. Mais ça n'enlève pas le fait que ces choses existent. Je recevais, il n'y a pas si longtemps que ça, un papier, une invitation. Et peut-être que certains parmi vous n'aimeront pas ce que je vais dire, mais il faut que ce soit dit. Une invitation concernant les hommes du plein évangile, qui veulent regrouper les chrétiens de toutes, dans tout ce qui existe de chrétiens, entre guillemets, catholiques, évangéliques, protestants, de l'Église presbytérienne, unitarienne, toutes, pour les rassembler ensemble. Et ce qu'on proposait pour la conférence, eh bien, on proposait le nom de Pierre Lacroix. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à la télévision. Où de temps en temps, l'Évangile semble annoncer clairement. Mais le lendemain, il détruit ce qui est annoncé en parlant de Marie, la médiatrice, la co-rédemptrice, qui est maintenant assise à la droite du Fils, et sans qui personne ne peut parvenir au salut. De la vérité mélangée avec du mensonge. Il y avait également un autre personnage bien connu ici au Québec, dans ce papier-là, qui est M. Philibert. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il enseigne à la télé-université, un théologien. Et je l'écoutais à plusieurs reprises pour tirer note de ce qu'il apportait. Et encore une fois, lorsqu'il reste avec les Saintes Écritures et lit les passages des Saintes Écritures, ça va bien. Mais lorsqu'il revient à la tradition de l'Église catholique romaine, à l'obligation de pratiquer les sacrements dans le but d'être sauvés, nous avons un double message. C'est de l'erreur. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. La grâce de Dieu est une référence à la destinée éternelle, la sécurité éternelle et le salut éternel du croyant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on agit par contradiction. On parle de la grâce de Dieu et on produit des œuvres qui vont à l'encontre de cette grâce. On est arrivé dans une période où on justifie le péché. Je ne sais pas dans chacune de vos vies qu'est-ce qui se produit. Dans la vie de chacune de vos assemblées. Mais même nous, les chrétiens, qui chérissons la parole de Dieu, en sommes parfois arrivés à justifier le péché. J'entends des fois des choses assez spéciales. Comme par exemple, j'aime pas mon voisin, je l'ai eu. Mais j'aime Dieu. Quelle contradiction. J'aime Dieu de tout mon cœur, mais j'aime pas ma femme. Quelle contradiction. À un moment donné, quelqu'un dans l'Église s'est divorcé de sa femme. Il est parti avec une autre femme. Il vit maintenant dans l'adultère. Et c'est triste. Mais des croyants dans l'Église, parce qu'on a dû discipliner la personne, sont venus me voir pour justifier son action. On a voulu justifier le fait qu'il vive dans l'adultère. On en est rendu à appeler le mal bien et le bien mal. On en est rendu à tordre le sens des Écritures pour faire accepter comme vérité l'erreur et prendre la vérité et essayer de la faire reconnaître comme du mensonge. Tournez dans 2 Timothée. Au chapitre 2 et au verset 17. 2 Timothée, chapitre 2 et verset 17. Et 18, bien entendu. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Si vous retournez tout à l'heure dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 et 19, il est parlé d'Hyménée, avec un dénommé Alexandre. Et l'apôtre Paul dit que, parce qu'ils ont abandonné la foi, il les a livrés à Satan. Ils ont été disciplinés, ils sont sous la discipline de l'Église. Et dans 2 Timothée, le nom d'Hyménée est mentionné à nouveau, avec une autre personne, Philette. Et il est dit qu'ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Bien entendu, la résurrection n'est pas arrivée. Je ne me présente pas devant vous dans un corps transformé. Écoutez ce qui suit. Ils disent et ils renversent la foi de quelques-uns. Et ça me trouble. Ça me trouble lorsque quelqu'un est mis en discipline pour fausse doctrine, pour immoralité. Qu'il puisse encore trouver une oreille attentive pour non seulement justifier leur péché, mais entraîner les autres à leur suite. Vous savez, maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on reprend quelqu'un dans l'Église, soit pour péché en rapport avec l'enseignement doctrinal, ou soit pour cause d'immoralité, les gens finissent toujours par venir nous dire « Ah, le problème qui existait, c'était tout simplement un conflit de personnalité entre la personne et le leadership de l'Église. » Et encore une fois, on justifie le péché. Donc, j'ai souvent des conflits de personnalité. Parce qu'à chaque fois qu'on confronte le péché, les gens tournent ça en conflit de personnalité. Mais j'aimerais que vous arrêtiez un instant à considérer cette parole de Ruth. Parce qu'il nous dit qu'il change la grâce de Dieu en dérèglement. Et considérez votre propre vie, votre propre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous en êtes rendu. Il y a d'autres doctrines qui circulent, qui sont fausses dans l'Église. Presque à chaque année où j'assiste à la conférence, je rencontre des chrétiens qui... Et peut-être que vous êtes de ceux-là, je ne le sais pas. Mais j'espère que vous allez saisir le message. Je les rencontre, je leur demande, « Hey, bon, comment ça va? Ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas rencontrés. Comment ça va dans ta vie spirituelle? Ah oui, ça va bien, bonne relation avec le Seigneur, je lis ma parole. Et puis, comment ça va dans ton implication avec l'Église locale? Ta mise en pratique des dons que le Seigneur t'a donnés pour l'édification du corps de Christ? Ah, ben tu vois, ça fait 5 ans que je fréquente plus l'Église. Et de plus en plus, on en arrive à ça. On abandonne l'Église locale. Pour toutes sortes de raisons. On abandonne la communion fraternelle. On abandonne l'enseignement. Et on mène une vie tout à fait indépendante. Et jamais les Saintes Écritures nous parlent d'une vie spirituelle indépendante du corps de Christ. Et j'avais dit à un des frères, à un moment donné, j'ai dit, je m'excuse, mais on ne lit pas la même Bible. On ne comprend pas les choses de la même façon. Parce que les Saintes Écritures nous encouragent à ne pas abandonner notre assemblée, à ne pas retourner à notre religion ancestrale, mais plutôt à confronter le péché dans notre vie, à confesser et à demander pardon pour être restauré. Donc, changer la grâce de Dieu en dérèglement, c'est renier la vraie signification et la raison de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort sur la croix, Christ a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il nous a aussi délivrés de la condamnation du péché et veut nous délivrer du péché lui-même. Ce que les faux docteurs font, non seulement ils changent la vérité des Écritures, ils l'utilisent comme prétexte pour pécher, mais ils renient Jésus-Christ comme seul maître et Seigneur. Revenez dans Jude. Je regardais ma femme, elle se posait me faire signe quand c'est terminé. C'est terminé déjà? Les faux docteurs. Au verset 8, il dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, les impressions reçues au travers du sommeil, méprisent l'autorité dans des révélations. Tournez encore dans Jude, au verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels. Le sensualisme est une doctrine philosophique qui est rattachée directement à l'expérience des personnes. Et probablement, comme plusieurs d'entre vous avez entendu parler, ou peut-être même que vous y avez déjà adhéré, je ne sais pas, mais on parle maintenant d'une troisième vague. Ah! Oh. Il y a une couple d'années passées, j'ai rencontré un chrétien qui... Il me parlait comme ça. Il attendait une réponse du Saint-Esprit. Mais je lui ai dit, ouvre ta Bible, il est ta Bible. Tu veux que le Saint-Esprit te parle, il va te parler au travers de sa parole. Le Saint-Esprit ne va jamais contre la volonté de Dieu et contre la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Mais les trois, le Père, le Fils et l'Esprit, fonctionnent en parfaite unité et en parfaite harmonie. Et le Saint-Esprit va vous diriger au travers de sa parole. Une troisième vague où on aboie par le Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y en a qui, parmi vous qui ont des chiens, mais on aboie par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si votre chien aboie, vous qualifiez ça d'esprit. On est également foudroyé par l'Esprit. On rit à tout vent par l'Esprit. Basé sur une doctrine qu'on appelle sensuelle. Basé sur les expériences personnelles. Frères et sœurs, je dois m'arrêter ici parce que le temps est écoulé et je ne veux pas prendre plus de votre temps. Mais je vous invite à considérer ce que Jude nous rapporte dans sa courte lettre. Je vous invite également, si, parce que nous sommes tous dans l'attente du retour de Jésus-Christ, je vous invite à veiller dans cette attente. À ne pas être des chrétiens, des chrétiennes oisifs et stériles qui ont décidé, pour quelque raison que ce soit, d'abandonner l'assemblée locale et de se donner à toutes sortes de philosophies, à toutes sortes d'enseignements, qui cherchent à expérimenter toutes sortes de choses à l'exception de la parole de Dieu elle-même. Connaître Dieu, obéir à sa parole pour goûter à ses bénédictions, sont deux vérités importantes du Nouveau Testament. Questionnez votre marche. Et s'il y a péché dans votre vie, mettez-le au pied de la croix. Si votre péché concerne, touche une autre personne, allez vers cette personne, allez chercher la réconciliation et le pardon. Prions. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour ta parole, te remercier pour notre frère, M. Hahn, qui nous a rapporté à cette question prophétique concernant Israël, à ces prophéties réalisées concernant la personne de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en tant qu'Église, en tant que croyant, notre Dieu, on ne veut pas rester indifférent à ce qui se produit autour de nous, à toutes ces conditions concernant l'Église professante dans les derniers temps. Et si, Père éternel, quelques-uns d'entre nous sont sombrés dans le compromis, dans l'indiscipline et dans l'immoralité, visite-nous, réveille-nous, ramène-nous à l'obéissance de ta parole, afin qu'on puisse, dès aujourd'hui, honorer ton saint nom. Parce que tu es saint et que tu cherches pour nous la sainteté. Parce que tu veux amener notre condition et l'élever au niveau de notre position en Jésus-Christ. À lui la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. La parole à cette conférence, et pendant la journée, plusieurs m'ont demandé, mais Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais avec une cravate aujourd'hui? Pour ceux qui me connaissent plus intimement, vous savez que je ne suis pas un homme à cravate. Non, et non. Mais j'avais une réponse derrière ma cravate. C'est parce qu'il y a, derrière ma cravate, quelque chose que tous les adolescents désirent. Il me manque un bouton. Alors, c'est ce que tous les adolescents désirent, l'absence de boutons. Alors, sans plus tarder, J'ai beaucoup apprécié les réponses que notre frère vient tout juste de mentionner par rapport aux questions qui lui ont été posées. Et j'aimerais qu'on tourne dans la lettre de Jude. On va lire quelques versets. Cet après-midi, on a parlé d'apostasie. Et les Saintes Écritures, que ce soit en relation avec les signes des temps, en relation avec les conditions qui prévalent dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ainsi que les apôtres, nous avertissent contre l'erreur et nous encouragent à la vigilance et à l'obéissance de la parole de Dieu. Et ce soir, eh bien, j'aimerais parler du remède à l'apostasie. Donc, je ne vais pas continuer dans la question de l'apostasie, parce qu'on n'aura pas le temps, mais plutôt parler du remède à l'apostasie. Ou, si vous voulez traduire ça d'une autre façon, eh bien, comment nous, en tant que chrétiens, devons-nous vivre l'attente du Seigneur Jésus-Christ? Alors, dans Jude, au verset 3, il est dit, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. » Au verset 20 maintenant, toujours dans Jude, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. » Alors, nous sommes avisés contre l'esprit de l'erreur, encouragés à veiller, donc encourageant la vigilance et à l'obéissance des saintes Écritures. Et Jude, dans sa courte épître, dans sa courte lettre, nous invite à combattre pour la foi qui a été retransmise aux saints une fois pour toutes, dans l'attente que nous sommes du Seigneur Jésus-Christ. Ou si vous voulez dire ça d'une autre façon, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Combattez pour la foi qui a été retransmise au saints une fois pour toutes. Jude utilise cinq impératifs qui nous interpellent à une marche fidèle avec le Seigneur Jésus-Christ, en relation avec Dieu et en obéissance à sa parole. Un de ces impératifs, on l'a utilisé ce matin, lorsqu'on a lu au verset 17, « Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres en relation avec les apostats. » Et maintenant, Jude nous dit « Combattez pour la foi qui a été retransmise au saints une fois pour toutes. » Il nous dit encore « Maintenez-vous dans l'amour. Reprenez les uns ceux qui contestent. » Et ces deux termes « Maintenez-vous dans l'amour » et « Reprenez les uns ceux qui contestent » sont directement rattachés à l'édification qui doit prendre place dans le corps de Christ. Un autre impératif est celui de « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Et pour d'autres encore, ayez une crainte, une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, deux de ces impératifs ont un trait à l'édification dans le corps de Christ, et deux autres de ces impératifs ont trait à l'évangélisation comme ministère qui doit prendre place envers les non-croyants. Frères et sœurs, on a parlé depuis le début du retour de Christ. Et je crois dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vivons actuellement dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra bientôt, et chacun de nous l'espère le plus rapidement possible, mais on n'a pas tous les mêmes raisons d'espérer une venue imminente du Seigneur Jésus-Christ. Mais Christ va revenir bientôt, chercher son Église et l'introduire dans un état de félicité éternelle. Donc on va être dans sa présence, avec lui, dans la présence du Père, dans la présence du Fils, pour l'éternité. Et ça, c'est une espérance. Et cette espérance, frères et sœurs, eh bien, doit nous motiver profondément dans notre marche chrétienne. Tournons un instant dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22. Et on va lire quelques expressions qui sont utilisées dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, en relation avec la venue de Jésus-Christ. Et bien entendu, il faut toujours distinguer, lorsqu'on parle de prophétie, ce qui a trait au retour de Christ par rapport à l'Église, qui va se faire dans les airs, et à la deuxième venue de Jésus-Christ, qui va prendre place sur la terre, où Christ va venir pour juger les habitants de la terre, restaurer la nation d'Israël et introduire l'État millénaire. Il est dit au verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et le retour de Christ est directement rattaché à l'obéissance que nous devons avoir envers Christ. Ce que Christ demande de chacun d'entre nous, c'est une obéissance immédiate dans l'attente de son retour. Regardez au verset 10, il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, est imminent. Les choses vont se dérouler d'une façon telle que ceux qui ne vivent pas dans l'attente de Christ ne pourront pas saisir le moment de sa venue. Et ils vont le recevoir comme leur juge. » Et dans cette attente, encore une fois, nous sommes invités à proclamer la parole de Christ. Ne scelle point la prophétie de ce livre. Au verset 12, il nous est dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Apocalypse, chapitre 1, versets 7 et 8. Nous dit qu'il vient sur des nuées et tout œil le verront, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de sa venue. Et bien entendu, c'est en relation avec sa deuxième venue sur la terre. Et au verset 17, il nous est dit, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. » Et nous sommes dans cette attente. Et ensemble, nous avons à dire avec l'Esprit, « Viens. » Et que celui qui entend, que celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, qui vient à la repentance et à la foi en Jésus-Christ, que lui aussi, à son tour, dise, « Viens. » Et au verset 20, « Celui qui atteste ces choses, dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Retournez maintenant dans la lettre de Jude. Alors, une obéissance immédiate, une adoration immédiate, une proclamation immédiate et une sanctification immédiate doivent être dans la perspective de chacun de nous, dans l'attente que nous sommes de son retour. Cette espérance doit être une profonde motivation pour notre marche. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, en tant que chrétiens, à vivre dans la préoccupation des signes des temps. Oui, il y a les signes des temps. Oui, comme notre frère l'a mentionné précédemment, hier et aujourd'hui, que la réalisation de ces signes vienne confirmer la vérité de la parole prophétique de Dieu et nous enseigner que Dieu est fidèle à sa parole et que Dieu va rétablir la nation d'Israël, que Dieu n'a jamais abandonné Israël. Mais nous ne devons pas vivre dans la préoccupation des signes des temps, ce qui produit l'oisiveté. J'ai parlé avec des plus jeunes. Quand je dis plus jeunes, pas plus jeunes que moi, mais je pense à des jeunes de l'âge de ma fille, 16, 17 ans, 15 ans. Et nous, les adultes, je ne sais pas, mais on a une façon bien spéciale de retransmettre le message à nos jeunes. Et il semble que lorsqu'on parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ pour prendre son Église avec lui dans les airs, eh bien, on leur retransmet un message qui est négatif. On les amène au découragement. Vous savez, le gars qui rentre dans l'église, là, puis qui vient lire un paquet de choses sur les signes des temps, puis il est tout découragé. « Oh, c'est-tu pas drôle, ça va tellement mal dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, si le Seigneur peut revenir bientôt, mais j'ai tellement hâte. » Puis qu'ils disent à nos jeunes, « Mariez-vous pas, le Seigneur, il va être là demain matin. » Qu'est-ce que ça te donne de continuer les études? Il arrive bientôt. Et souvent, la société les décourage parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et nous, les chrétiens, au lieu d'anticiper le retour de Christ, en relation avec ce que les Écritures nous enseignent, on les décourage. Le retour de Christ, c'est décourageant. C'est démotivant. Il y en a même, on voit dans 2 Thessaloniciens, qui enseignait que le jour du Seigneur était déjà là, puis il n'a qu'à arrêter de travailler. Mais je vous pose la question. Quelle sorte d'anticipation avez-vous du retour de Christ? Et quelle sorte de vie, présentement, quelle sorte de vie chrétienne menez-vous dans l'anticipation de ce retour? Est-ce que vous êtes assis sur des chaises oisifs et stériles ou êtes-vous occupé à son service? Êtes-vous impliqué dans chacune de vos églises locales? Vous donnez-vous à cette tâche de l'évangélisation, de l'édification du corps de Christ? Ou vous lamentez-vous sur votre sort jusqu'à ce que Christ revienne? Faites-vous partie de ceux qui se lamentent des problèmes de la société? Ou faites-vous partie de ceux qui combattent le bon combat, qui mènent la vie chrétienne, qui annoncent l'Évangile, qui s'impliquent dans leur assemblée, qui sont un plus dans la vie des frères et des sœurs, et qui sont aussi un plus en tant que chrétiens, à cause d'une vie conforme à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ pour ceux du dehors qui ont besoin d'entendre l'Évangile de Jésus-Christ. Tournons un instant dans 2 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 5. Alors, vivre dans la préoccupation des signes des temps, ce qu'on voit souvent dans nos assemblées, c'est que ça mène à l'oisiveté. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que les apôtres ont manifesté. L'apôtre Paul a parlé à maintes reprises du retour de Christ. Mais dans sa démarche quotidienne, il est un fonceur pour Dieu, un fonceur pour Christ. Et Pierre nous dit ceci dans son deuxième épître, au chapitre 1, verset 5. « À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, à la patience, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle attente! Pierre qui a vu sa majesté de ses propres yeux. Maintenant, nous sommes des combattants. On est appelé à combattre. Et Dieu peut. Il est dit au verset 24 de Jude, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute. » Dieu peut nous préserver de toute chute. Dieu possède la puissance, la force suffisante pour nous préserver de toute chute. Et Dieu le fait. Il le fait au travers des moyens qu'il a établis pour notre édification et notre perfectionnement. Mais je vous pose la question. Voulez-vous être préservé de la chute? Êtes-vous prêt à investir de votre temps? À mettre vos priorités en place? Pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre dans votre vie. Dieu nous préserve de toute chute. Il le peut. Il possède la puissance. Lorsque nous combattons pour la foi qui a été retransmise au sein une fois pour toutes, Dieu nous préserve de toute chute. Lorsque nous combattons pour la foi qui nous a été retransmise une fois pour toutes. La foi. Qu'est-ce que la foi? Ici, dans notre contexte de Jude, la foi représente l'enseignement des doctrines cardinales et vitales, ainsi que des obligations qui en découlent. L'enseignement des doctrines fondamentales et vitales, ainsi que de nos obligations qui en découlent. Parce qu'en tant que croyants, nous avons des obligations par rapport à l'enseignement que nous recevons. Et nous luttons pour la foi qui nous a été retransmise lorsque nous la proclamons, lorsque nous la performons et lorsque nous souffrons pour elle. Un des problèmes majeurs souvent dans nos vies est rattaché à cet aspect de la performance, du comportement dans la vie chrétienne. On a souvent tendance à mettre beaucoup d'emphase sur la connaissance des Saintes Écritures. Il faut connaître les Saintes Écritures. Parce que c'est au travers des Saintes Écritures qu'on apprend à discerner l'esprit de l'erreur. Mais on en arrive à cette étape de connaissance et on néglige l'obéissance à la parole du Seigneur. Et frères et sœurs, connaissance et obéissance sont deux vérités attachées ensemble. Vous ne pouvez pas les dissocier. Ils sont ensemble. L'apôtre Paul enseignait la repentance avec la foi en Dieu et des œuvres dignes de repentance. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il nous est dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Un autre verset nous dit, travaillez à votre salut. Conformez-vous de façon pratique à l'enseignement que vous recevez. Il y a une petite illustration que j'aime beaucoup, et c'est une histoire d'oiseau. Elle m'a donné dans le ciel bleu de la belle ville de Chicoutimi. Je m'excuse pour ceux qui viennent de d'autres régions. Il y avait quatre oiseaux qui volaient ensemble. Et le premier des oiseaux, en se tournant un peu, en tassant son aile de côté, dit aux trois autres qui suivaient, il dit, « Moi, aujourd'hui, j'ai lu 10 chapitres dans ma Bible. » Mais c'est bien de lire 10 chapitres. Et si vous avez la capacité de lire 10 chapitres, c'est bien. Fait que les trois autres étaient impressionnés. 10 chapitres, c'est un oiseau spirituel. Le deuxième se tourne vers les deux autres et dit, « Moi, j'ai lu 5 chapitres aujourd'hui dans ma Bible. Ben, » 5 chapitres, frères et sœurs, c'est bien. Mais ceux qui lisent 5 chapitres par jour, c'est bien. Et ça fait un deuxième oiseau spirituel. Alors, le troisième lui dit, « Moi, j'ai lu 2 chapitres aujourd'hui. » Mais c'est encore bien. On est en présence d'oiseaux qui possèdent différentes capacités de lecture. Et 2 chapitres, c'est bien. Et le quatrième oiseau regarde les trois autres, un petit peu en parallèle à lui, et leur dit, moi, j'ai lu 1 verset aujourd'hui, puis je l'ai mis en pratique. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et je n'en veux pas à ceux qui lisent 10 chapitres. Je vous invite à lire le plus possible. Mais à cette connaissance, attachons l'obéissance. Frères et sœurs, la révélation, notre point souligné ici, de cette foi que nous combattons, la révélation de Dieu nous a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre révélation de la part de Dieu que sa parole, les saintes Écritures. Tout nous a été révélé, tout ce qui est nécessaire à notre croissance nous a été révélé. Il n'y a pas d'autre révélation. La parole de Dieu est complète. Au jour de jeune homme frappe à ma porte, des mormons, de très gentils, très polis, bien habillés, habits, cravates. Alors, je les introduis sur le palier, puis ils commencent à me parler du Seigneur Jésus-Christ, à me citer des versets de la parole de Dieu par cœur. C'était merveilleux. Mais ils disaient comme la Bible dit, ils parlaient exactement comme nous. Mais il tenait dans sa main, pas ce livre-là, il tenait dans sa main le livre des Mormons. Il venait à moi pour me parler de Jésus-Christ avec une source d'autorité et de révélation autre que les saintes Écritures. C'est l'apostasie. La foi nous a été retransmise une fois pour toutes. Elle est complète. Un autre élément à souligner ici dans l'épître de Jude. Il nous est dit au verset 21, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dieu possède la puissance pour nous préservé de toute chute. Et nous sommes invités par lui, par le moyen de sa parole, à nous maintenir dans l'amour de Dieu. Cet amour, nous la possédons. Dieu l'a déjà manifesté dans la personne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes maintenant invités à nous maintenir dans cet amour. Le Seigneur Jésus, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, disait à ses disciples, « Demeurez en moi, demeurez dans mon amour. » Et je nous dis, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, dans l'attente que vous êtes du retour de Christ. » Mais cet amour, elle implique une relation à deux dimensions, une verticale. Cette relation qui nous est nécessaire avec Dieu et également une relation horizontale. Parce que l'amour de Dieu manifesté dans nos vies doit se communiquer aux autres. L'amour de Dieu manifesté dans nos vies doit prendre une dimension pratique. Et les deux moyens par lesquels ça va se faire, c'est l'édification. Donc, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et la prière par le Saint-Esprit. Le terme « édifier » réfère à la croissance telle que démontrée par l'image de l'érection d'un bâtiment. Si vous allez voir dans Éphésiens, vous connaissez le passage, on est appelé à s'édifier sur ce fondement solide qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même le fondement de l'Église. Donc, l'édification nous concerne, nous interpelle envers une personne, la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est une invitation à croître dans sa connaissance et dans l'obéissance de sa parole. Mes frères et sœurs, l'édification implique l'étude de la parole, la méditation de la parole, l'obéissance à la parole et la prière. L'Église existe, mais elle n'existe pas pour rien. Si vous retournez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 42, il est mentionné de l'importance de l'enseignement des apôtres, de la prière, de la fraction du pain, de la communion fraternelle. Quatre éléments essentiels pour une marche équilibrée dans la vie chrétienne. Et plusieurs d'entre nous, nous devons revenir à ces éléments de base que nous avons mis en oubli. L'expression « prier par l'Esprit » ne veut pas dire « prier en langue ». Mais c'est prier conformément à la volonté de Dieu, décrite dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'apprends à connaître Dieu, j'apprends à connaître Jésus-Christ au travers de sa parole. La foi est une ferme assurance des choses que nous possédons. Une démonstration, et j'aime le mot « démonstration ». C'est une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration. Démonstration de la foi. La foi produit l'espérance, et l'espérance produit la persévérance. Et nous persévérons à cause de l'espérance que nous avons de la résurrection d'entre les morts. L'apôtre Pierre, dans son premier chapitre, au verset 1 et verset 3, nous dit que Dieu nous a fait naître à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, et qui nous est réservé dans les cieux lorsque Christ apparaîtra. La prière. Prière qui est souvent abandonné. Vous allez dans une assemblée, vous mentionnez sur le papier réunion de prière, la moitié ne se rendra pas. Je ne sais pas, on est dans cette période où les gens ont peur de la prière. Ils ont peur d'utiliser le moyen que Dieu met à leur disposition, qui n'est pas un moyen charnel, mais qui était un moyen spirituel, afin de mener à bien le combat spirituel. On aime mieux utiliser des moyens charnels, nous autres, les chrétiens. On devrait aller faire une manifestation, sa rue Racine à Chicoutimi, plutôt que prier. On devrait faire comme on voit à la télévision pour ceux qui font des manifestations contre l'avortement. Je suis contre l'avortement. Mais accepter, c'est qu'on utilise des moyens charnels, comme le monde fait, pour arriver à nos fins, plutôt que de prier et d'implorer la puissance de Dieu afin qu'il puisse venir enrayer l'esprit du mal dans la société. Nous désertons nos réunions de prière. Un autre élément, Dieu peut, et Dieu possède la puissance de nous préserver de toute chute lorsque nous reprenons les uns, ceux qui contestent. Et encore une fois, c'est rattaché à l'édification qui prend place dans le corps de Christ. Ceux qui contestent, ceux qui sont maintenant dans le doute à cause des faux enseignements qui leur ont été apportés, à cause des vaines philosophies qu'on leur a communiquées. Et pour la plupart d'entre vous qui avez des adolescents, et pour ceux qui rentrent au cégep, eh bien Dieu sait combien de vaines philosophies on va leur retransmettre pendant cette année scolaire. Nos philosophes, les détenteurs et les proclamateurs d'un Big Bang universel. Et on va leur parler des Saintes Écritures comme étant un mythe. La création, c'est un mythe. Et on va essayer de leur faire croire que le Big Bang, ce n'est pas un mythe. Et on va propager ces choses-là dans un esprit philosophique et scientifique. C'est complètement ridicule. Mais certains d'entre nous vont être atteints dans leur foi. Et nous devons les reprendre. Pour les ramener à la foi des Écritures. Une foi qui n'est pas mystique. La foi des Écritures n'est pas mystique. Tu ne te branches pas par la prise de courant pour recevoir une révélation. Dieu se révèle au travers de sa parole. Ce n'est pas mystique. C'est une foi qui est vérifiable, qui est raisonnable. Et par la foi, comme notre frère l'a dit, eh bien, on peut aller au-delà des évidences. Et encore une fois, c'est par la grâce de Dieu. Un autre élément, et les deux autres éléments, concernent notre implication envers l'évangélisation. Un des passages qu'on a lu cet après-midi était dans Actes, chapitre 1, verset 6. Et le Seigneur Jésus n'a pas donné la réponse attendue par les apôtres. À quand le rétablissement d'Israël? Il a dit plutôt, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Seigneur Jésus n'a pas dit, vivez dans la préoccupation du rétablissement d'Israël. Il dit, allez. Faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est pas orphelins. Christ nous a donné sa parole, qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'évangélisation. Non pas préoccupé, mais occupé au ministère de l'évangélisation. Je nous dis, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Toute personne qui n'est pas encore venue à la repentance et à la foi en Jésus-Christ et sous le jugement et la condamnation de Dieu. Et est voué présentement à passer l'éternité dans l'étang de feu et de soufre. Sauvez-en en les arrachant du feu. Le feu, bien entendu, est un symbole de jugement. Sauvez-en en les arrachant du feu. Apportez-leur l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. De cette grâce incommensurable qui a pris place lorsque Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, qui s'est incarné dans un corps d'homme et qui est venu sur cette terre. Lui en qui il n'y avait aucun péché. Lui qui n'a jamais péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et un dernier élément, ayez une pitié mêlée de crainte pour d'autres encore, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Certaines personnes, lorsqu'on rentre en contact avec elles, on peut facilement leur partager l'Évangile. Et on va dire en quelque sorte qu'ils ne sont pas trop contaminés. Certaines ouvertures. Il y a d'autres personnes qui sont contaminées à tous les niveaux. Ils sont contaminés sur le plan moral, ils sont contaminés sur le plan spirituel, ils sont contaminés sur le plan intellectuel. Et ces personnes représentent un danger pour le croyant. Mais ce sont aussi des personnes en besoin d'entendre l'Évangile de Jésus-Christ. Ayez une pitié mêlée de crainte. J'ai eu un téléphone il y a, je pense, c'est deux semaines passées, je ne sais pas. Je partageais ça avec notre frère Errol Savard, son épouse aussi, parce que ça concernait des personnes de Jonquière. Mais une femme me racontait au téléphone toutes sortes de choses spéciales, apparemment. Pendant la nuit, les portes se ferment toutes seules, ça craque, sa fille entend bouger dans le garde-robe, toutes sortes de choses inimaginables. Et la madame disait, j'ai besoin d'aide. Et j'ai pitié pour ça. J'ai pitié pour elle. Mais en même temps, j'ai des craintes à cause de tout ce qu'elle m'a raconté. Ça fait peur, ça fait frissonner. Mais elle a besoin d'entendre l'Évangile. Je lui ai partagé l'Évangile. Je pense que notre frère l'a fait également. Ses enfants, un du moins, a déjà entendu l'Évangile parce qu'il est venu ici au camp. Pendant l'été. Mais il faut prier pour cette personne. Frères et sœurs, l'attente, l'anticipation du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une question d'oisiveté, de stérilité spirituelle. C'est une question d'implication. Quand le Seigneur reviendra-t-il? Personne ne le sait. Ne perdez pas votre temps à essayer de découvrir quand le Seigneur va revenir. Il n'y a plus la peine de nous le dire. Personne ne le sait. Mais veillez dans l'attente de son retour. Amen.